Cette semaine, dans le balado, on tente de faire notre place dans le monde de la musique classique et on magouille pour mettre la main sur du pétrole. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff!
Salut! C'est deux beaux projets de vie, ça.
Quand même, hein? Ouais, donc, deux films... un très costaud, très long.
Ouais.
C'est quand même le grand retour de Scorsese au cinéma, faut le dire.
Ouais, et depuis plusieurs semaines, mois, on parle surtout du running time, là, du temps de la durée de 3h26-27.
Ouais, ouais. Donc, préparez-vous avant d'aller aux toilettes et achetez-vous un gros popcorn et une grosse liqueur pour ne rien manquer.
C'est ça.
Et sinon, aussi, le retour de Chloé Robichaud avec un nouveau film sur la musique dont on va avoir la chance d'en discuter un petit peu plus. On a également fait un épisode spécial aussi avec l'équipe du film.
Oui,
là,
qui est pas en ligne, mais peut-être qu'au moment où vous écoutez, c'est en ligne. Là, mais en tout cas, au moment où on enregistre, ça ne l'est pas encore, mais ça ne saurait tarder.
Donc, encore une fois, ça a été une très belle discussion avec l'équipe derrière le film. On a appris plein de choses intéressantes.
Écoute, on en reparle dans quelques minutes. Mais là, tu parlais de musique.
Oui.
Et j'ai envie déjà de dire, j'ai fait mes devoirs cette semaine.
D'accord.
Je n'ai pas écouté de film d'un prochain réalisateur ou d'ancienne œuvre d'un réalisateur qui sort quelque chose prochainement. Tu vois ce que j'essaie de faire. Mais là, j'ai écouté du Taylor Swift.
Ah.
Puis là, la semaine dernière, on disait, je pense que toi, t'aimes bien Shake It Off. Puis là, moi, je nommais... merde, j'ai déjà oublié le titre de la toune. C'est deux chansons qui sont sur leur même album, sur 1989. Fait que je me suis dit, je vais écouter 89, qui est quand même un gros album de 2014. Puis après, j'ai écouté Midnight, qui est sorti, je pensais que c'était 2019, mais je pense que c'est plus 2022. Fait que c'est un très récent. Puis, c'est pas pour moi.
Non, OK.
J'ai fait
confirme.
De l'exercice. Oui, c'est ça. Là, écoute, c'est pas un podcast de critique musicale, mais c'est comme... J'aime bien la musique pop, là. C'est pas ça. C'est pas que c'est trop bonbon ou il y a trop de synthétiseurs. Ou c'est ça, là. Il y a plein d'artistes que j'écoute dans cette veine-là. Mais c'est vraiment les thèmes, là. Je reconnais certaines qualités musicales. Il y a des hits, il y a des trucs qui restent en tête, des bangers, des tunes qui restent en tête. Mais les thèmes puis ce dont elle parle, je trouve ça trop écolier pour moi, là. Elle a pas une poésie. Qui me touche.
Un signe que tu vieillis.
C'est ça. Fait que j'étais au gym à faire de la gonflette en écoutant ça. Puis là, ça m'a rappelé comme on sait. Tu sais, comme il y a des films des fois qui présentent ça. Il y avait un peu ça dans Cours là, la cour. Là, quand on croisait des gens, il y avait comme les toucher. Il y avait un flashback de qu'est-ce qu'ils font dans Unbreakable. Shyamalan avait repris ça un peu. C'était un des super pouvoirs du personnage de Bruce Willis. Mais c'était un peu ça. Fait que t'es comme fait que là, au gym, à Star, quand je vois du monde avec leurs écouteurs puis qu'ils font du deadlift de 1200. En livre. Peut-être qu'il écoute Taylor Swift, peut-être qu'il écoute, je sais pas qu'est-ce qui serait gênant, ou peut-être qu'il y en a qui écoutent de la musique classique, justement. Des fois, j'écoute des podcasts, puis je suis un peu plus mollo dans ce temps-là, et ça va quand même mieux que la musique.
Ça doit pédaler un peu moins vite.
Ouais, c'est ça, plus dans l'une, tu sais. Ouais, c'est ça. T'es-tu allé voir le spectacle, finalement?
Finalement, non, j'ai pas eu l'occasion. J'ai encore quelques semaines devant moi, je crois.
Oui.
Je sais pas encore. Si j'ai un petit trou, puis que j'ai rien d'autre d'excitant à faire, je pense que j'irais quand même. Là. Comme je te dis, ça avait quand même piqué ma curiosité, là, le 15-20 minutes que j'avais
un petit
vu,
dimanche
là,
soir, là, quand il joue. Là,
ouais. Qui sait? Ça va être à suivre. Mais si je vais le voir au complet, je vous en reparlerai.
Je sais pas si tu as beaucoup de nouvelles. Moi, j'en ai juste une.
J'en ai quelques-unes.
Mais elle parle de musique. Je pourrais aller là. Les Chambres Rouges, là, j'en reviendrai jamais de ce film-là. Puis on va sûrement s'en reparler à la fin de l'année dans notre top. Ont annoncé que là, la trame sonore est disponible sur les plateformes numériques audio, là, genre Spotify et tout. Là, j'ai pas eu le temps d'aller la réécouter.
Mm-hmm.
Ils ont fait une publication là, sur la page Facebook du film, là, des Chambres Rouges. Fait que j'imagine que c'est assez facile à trouver, là, donc la trame sonore de Dominique Plante. Puis j'ai posé la question si ça allait être en vinyle. Ouais. Parce que je me souviens plus si c'était dans l'épisode spécial ou en tout cas, on avait juste discuté avec la production.
Spécial,
je sais pas si c'était hors micro ou avec micro qui disait qu'il caressait l'idée. Mais on m'a pas répondu. Encore. Fait que, en tout cas, eux, c'était pas annoncé tout de suite la pré-vente ou quoi que ce soit. Là, on parle juste d'écoute en ligne. Mais quand même, la fameuse... J'ai pas écouté la trame, celle qui joue au milieu du film, puis à un moment donné, il y a un moment, elle devient vraiment plus forte et tout. Je ne sais pas si c'est un effet du film ou si ça l'est quand tu écoutes la chanson aussi, puis tu fais le saut à chaque fois. Je pourrais écouter ça au gym.
Ben
essayer.
Voilà.
Fait que voilà, pour les Chambres Rouges, qui en plus continue sa vie à l'international, justement, comme on discutait. Oui, là, je pense qu'il vient de quitter l'affiche au cinéma Beaubien après 11 semaines, puis qui était probablement le dernier cinéma qui le jouait, ou peut-être des ciné-répertoires, des choses comme ça. Mais il était encore dans un festival à... Je vais pas me tromper, mais quelque part en Asie, là, le Pascal puis la productrice Dominique étaient là pour présenter le film et tout. Fait que super beau parcours qui n'est pas encore terminé pour les Chambres Rouges.
Non. Puis découvrez ce petit bijou lorsqu'il sera disponible sur les plateformes.
Ouais, si vous l'avez manqué.
Ouais, ouais. C'est un très bon film québécois. Sinon, ça fait le tour
oui,
de
oui, vas-y,
ouais,
vas-y. Okay. Je te...
Bon, on sait que la grève perdure toujours à Hollywood entre les comédiens et les studios. Alors, d'autres victimes de cette grève-là ont été annoncées, dont un film qui nous intéressait, The Bike Riders.
Oui, OK.
Qui sortait, je pense, c'était le 1er décembre. Donc, repoussé à 2020. Ben, en fait, je pense qu'il n'y a même pas de date. Okay. Il a juste été retiré carrément du calendrier. Donc, j'imagine que ça va être quelque part en 2024.
Oui, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment un cas de promotion parce que le film est complété et il était prêt à sortir. Ils ont juste dit, on peut pas faire de promo avec les comédiens, avec Austin Butler. Fait que...
Mais, tu l'as dit, quand même, certaines productions, eux, sont touchées parce qu'ils sont en plein tournage et ils n'avaient pas terminé. Alors, c'est le cas pour Deadpool 3, encore un des films très attendus de l'année prochaine, donc qui devait sortir à l'origine le 3 mai, donc la fameuse position du premier week-end Free Comic Book Day là, aux États-Unis, dans le monde un peu de la culture geek. Depuis plusieurs années, il y a toujours un film de super-héros à cette date-là. Donc, le tournage, toujours en suspens. Donc,
le film ne sera pas prêt à temps.
Donc, écoute, et puis ça pourrait être peut-être même en théorie une première année sans Marvel, parce que pour l'instant, il y avait juste deux autres films d'annoncer.
Ah oui, c'est vrai.
Il y avait Captain America 4, là, Brave New World, qui devait sortir en juillet, et Thunderbolts en décembre. Les deux n'ont pas terminé non plus leur tournage.
Ouais,
donc, est-ce que Deadpool serait juste décalé puis prendrait ces plages-là?
S'ils ont besoin qu'un film soit vu avant l'autre, ben là, ils décalent le calendrier, sinon ils peuvent les remélanger. Là,
mais écoute, ça serait quand même une première depuis, je pense, 2008, qu'il n'y aurait pas de film Marvel dans une année.
Ouais, puis il n'y aura probablement pas de série aussi, puis tout. Parce que là, tu sais, Loki saison 2, blablabla, sortait, mais c'est parce qu'il était déjà tourné. Mais là, en ce moment. Ouais, fait qu'on va commencer à avoir un trou.
Vraiment. Puis, écoute, il n'y a pas de DC l'an prochain. Fait que ça se termine avec Aquaman. Alors, ça va être intéressant à suivre. Mais, ça a de gros impacts quand même sur la distribution.
Heureusement, il va y avoir Kraven the Hunter de chez
On pourra se rabattre toujours sur ce bon Kraven.
Finalement, le monde va tellement... On pensait qu'il y avait une fatigue des films de super-héros, mais les gens vont tellement être en manque qu'il va faire un premier week-end de 191 millions de dollars. Les gens vont capoter, tout le monde, sur Kraven.
Restons dans la thématique de la grève. Une petite nouvelle drôle, mais quand même, la Guilde des acteurs a envoyé une missive cette semaine concernant l'Halloween.
Okay.
Et ils demandent fortement à leurs membres, évidemment, de ne pas se costumer en personnage de film de studio, évidemment,
parce que
c'est comme une représentation. De personnages, alors...
Mais là, je pense qu'il y a en fantôme. Il y a des fantômes dans des films?
Ouais, mais tu sais, je pense que c'est peut-être costume générique, on
mettez-vous pas en Jack Sparrow puis en Iron Man.
Voilà. Okay. Je trouvais ça quand même très drôle, là, comme directive, genre de voir
ça
va être, ça va être écouté.
Justement, à ce moment-là, vraiment un retour aux zombies, aux épouvantails.
Aux sorcières, aux trucs plus classiques.
En homme d'affaires, qui était le costume par excellence quand t'étais un enfant.
En comédien en grève, ça peut
Mais là, c'est même pas un costume à ce moment-là. C'est déguisé en comédien qui travaille. Ça.
Puis, c'est la semaine dernière qu'on avait évoqué A24 et ce changement de cap de direction. Ben écoute, déjà des petits trucs qui se trament.
Okay.
C'est encore à l'étape de rumeur, rien de confirmé. Mais il y a Matthew Vaughn en interview cette semaine.
Argyle, qui s'en vient en février.
Il parle tranquillement de promo sur ce film-là. Il a mentionné qu'il travaillait sur une reprise de Kick-Ass.
OK.
Et que A24 serait dans la course pour obtenir les droits.
Ben, une reprise, ça serait...
En fait, ce serait pas nécessairement un reboot de ce que j'ai compris. Donc, on verrait pas le personnage de Kick-Ass et de... C'était Hit-Girl, je pense?
C'est
ça. Donc, Aaron Johnson puis Chloe Grace Moretz.
Exact.
Mais éventuellement, parce que Matthew Vaughn a toujours 50 millions de plans. Alors, il les ramènerait éventuellement peut-être dans un deuxième film, dans un deuxième temps. Il aimerait les revoir, mais je pense qu'il...
serait comme un spin-off, un
moins
peu.
Moins genre. Fait qu'on reste dans l'univers avec une nouvelle version qui mentionnait plus actuel, qui reflète plus le monde et les technologies d'aujourd'hui. Donc, probablement réseaux sociaux et tout ça. Mm-hmm.
TikTok.
Et puis, ouais, fait que voilà. Fait que j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on vraiment, on attend une suite? Je sais pas. Ça peut être toujours intéressant. C'est bien fait. On s'entend que le deuxième, c'était brûlé un peu, là. Avec la série, c'était
moins. Ouais, j'en ai comme pas
fun.
De souvenirs.
Ouais, c'est ça. Puis je dirais même en termes de bande dessinée, parce qu'il y a un gros univers de BD, là, il y a plusieurs.
Mais les,
plusieurs
est-ce que
séries.
Les BD viennent de Matthew Vaughn ou lui a juste fait l'adaptation au cinéma?
Il y avait de l'adaptation au cinéma. Okay. C'était Mark Miller qui avait écrit ça.
C'était le nom de mon prof d'anglais au secondaire.
Ouais, ouais, ouais.
Mais c'était pas le même, je pense. Je pas,
pense, non. Penserais pas. Alors, à suivre donc pour les fans de Kick-Ass et puis ben, surtout dans 24, est-ce que ce sera la première propriété intellectuelle qui mettront la main.
Mais là, ça va être, si ça voit le jour, ça va être comme en 2026.
Ben, Vaughn, il dit que ça peut être l'an prochain, qu'il serait prêt à tourner dès que ça.
Ah ouais, okay. Son arrive. Scénario est là, puis tout, ok. Eh ben.
Ouais, ouais, ouais. Alors.
Puis, je vais être curieux de voir justement ce fameux objectif-là de A24. Combien va coûter le premier film, tu sais? Est-ce que c'est oui, on veut des propriétés, des IP, mais on y va pour 50-60 millions ou c'est comme, ah ouais, 110? Puis, je pense, pour être honnête, plus le genre de film qu'il faudrait qu'il soit dans le 70.
Ouais, ouais,
là,
ouais.
Sinon, grande prise de risque.
Tout à fait, bien d'accord avec toi.
Quoi d'autre? Quoi d'autre?
Ben, ça fait le tour, moi, pour les nouvelles. Quand même, quelques petites bandes-annonces.
Ouais, ben, il y a Ferrari qui ont sorti leur bande-annonce complète où là, les gens parlent.
Mm-hmm, ouais,
mais,
c'est vrai
écoute,
que la première,
ça donne, ben, plus envie. J'étais un peu indifférent au début. Je comprenais que ça allait être un grand film à sa façon et tout, mais là, ouais, j'ai quand même... ça fait monter mon enthousiasme pour le film.
Excellent. Ben, moi, je suis un grand fan de Michael Mann, alors j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire avec ça.
J'ai pas noté les autres.
Ah,
tu m'avais dit. Les Trois Mousquetaires, c'est ça?
Ouais,
ouais.
Donc Milady, cette deuxième partie qui prendra l'affiche le 20 décembre.
15 décembre.
Donc, oui, écoute, ça semble encore plus grandiose. Encore, je dois confesser que j'ai jamais lu le roman, là, fait que je sais pas ce qui va se passer dans cette deuxième partie-là. Puis même les vieux films, si je les ai vus, je m'en rappelle plus. Donc,
moi, je sens qu'il y a un, je les ai pas lus non plus. Je sens qu'il y a un des trois, Athos, Porthos, Aramis, là. Je pense qu'il y en a un des trois qui verra pas le générique, là.
Ah, tu penses?
Moi, je pense qu'il y en a
un. Je pense qu'il était dans
le film. Il va
avoir
un sacrifice ou quelque chose comme ça, là. Mm-hmm. Non, mais il va être dans le film, mais que, comme, il va mourir au milieu du deuxième volet.
Mais ils sont pas dans la suite, les trois mousquetaires, je pense.
C'est quoi la suite?
Écoute, il y a eu trois romans en tout.
Ah, OK.
Je pense que c'est le retour de Milady, je pense, le 2.
Ben là, le diptyque. Au cinéma,
c'est
juste... C'est
le premier roman.
Ah, OK.
Ouais.
Ah, ben peut-être que tout le monde est correct.
C'est quand même des bonnes briques. Ouais, fait que je pense pas que...
Ah, bon.
Qu'on va voir ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus d'action. Assurément, ça doit être beaucoup plus grandiose en termes de visuel et mm-hmm. de tout ça. Là. Fait que, en tout cas, moi, j'avais bien adoré la première partie.
Oui, oui.
C'était une des belles surprises de l'année. Fait que...
Puis, en tout cas, cette semaine, j'étais dans des panels et des affaires du milieu de l'industrie. Puis, on a présenté la bande-annonce et je pense pas que c'est un secret, mais le distributeur veut essayer de ramener le premier au cinéma pour les cinémas intéressés
ouais.
et d'essayer de proposer même des programmes doubles.
Ça serait très, très cool,
fait
ça,
que,
je pense.
Suivez ouais. votre cinéma, là, ça serait proposé, pas évidemment pas pendant 8 semaines, là, mais au moins
ouais,
le premier
semaine,
week-end,
pense,
là,
ouais,
c'est ça, sûr. D'essayer de des combos que tu peux aller voir le premier, puis une demi-heure après, tu as la suite.
T'sais. Ouais. Ben, moi, je suis pour ça. Je trouve que ce serait vraiment intéressant. Au moins, du moins, ramener le premier une semaine là, pour
ouais, c'est ça.
Permettre à ceux qui ne l'ont pas vu de
ben,
se
moi,
rattraper.
Je l'ai vu, puis j'ai envie de le revoir ouais. pour que ça soit plus frais, ouais. justement. Puis surtout que c'est pas... tu sais, on prend exemple, là, Dune, qui est reporté au mois de mars. Est-ce que les cinémas vont pouvoir remettre le premier? Mais tu sais, c'est un film que tu peux écouter en plateforme. Tu peux l'écouter à la maison. Je pense que Trois Mousquetaires, non. Tu sais, il est encore...
Okay.
Vu que le premier était sorti en avril, ils l'ont volontairement gardé le contrôle pour qu'il y ait une valeur ajoutée de retourner le voir au cinéma. Okay. Fait que c'est ça, tout
ouais.
est dans tout. Là.
Mais je dois avouer que pour Dune, ça serait le fun quand même, là, ce genre d'affaires.
Ouais, mais
je pense qu'il serait mérité.
Qui serait logique, qui serait mérité. Mais on s'égare, mais on avait vérifié, puis je pensais que... Je pense qu'il était comme pas
non, pour l'instant,
disponible,
non,
puis
ça.
C'était comme très bizarre ce que Warner faisait.
Ouais. Ouais, ils vont peut-être changer d'idée.
Voilà. Ou c'est parce qu'ils veulent vraiment, eux, avoir le contrôle sur des événements, fait que c'est pour ça que, en tout cas, en ouverture, ils... Bref, on se garde dans ce qu'on fait d'autre
donc,
dans la vie.
Cas, Trois Mousquetaires, deuxième partie, Milady, ça a l'air très, très prometteur. Sinon, petit teaser, bon, je me rappelle même plus si tu en avais peut-être glissé un mot la semaine dernière, toi non plus.
Je pense que oui, mais parlons-en.
En tout cas, Night Swim, qui est le nouveau film d'horreur de Blumhouse, prévu pour janvier. Donc, ils prennent le créneau Annabelle, qui avait
Megan,
oui, c'est ça.
Oui, qui était comme
qui bien fonctionné.
Pas un film grandiose, mais sympathique, puis qui arrive dans un trou de programmation, surtout pour ce genre de clientèle-là.
Oui.
Puis, ouais, c'est ça, à cette heure, il y a des films. Il y a un film d'horreur par mois, là, c'est même plus octobre, ça se bouscule au portillon, mais sinon, toujours moyen pour cette audience-là. Fait que Megan avait été un bon succès de box-office en cumulant un peu plus de 100 millions, je pense, à son parcours, ce qui était extrêmement surprenant. Et la méthode Blumhouse, c'est un film qui en a coûté comme 8 à produire. Là, genre.
Tout à fait. Fait que, ça
fait que là, on parle d'une espèce de piscine hantée.
Oui, ce qu'on comprend, mais c'est vraiment un teaser. On a comme une minute, il ne se passe pas grand-chose. L'autre qu'une ado qui se baigne, qui fait une baignade de soir. Son chum semble lui jouer un tour. Puis finalement, elle se retrouve seule dans la piscine. Et, ben,
c'est des genres de démons.
Il va y avoir quelque chose, ouais. On ne sait pas trop.
Puis, si ma mémoire est bonne, c'était un court-métrage qui avait capté l'attention de Blumhouse, puis qui a été adapté en long métrage. Ça arrive souvent dans le monde de l'horreur. Hein.
Ben effectivement, c'est ce que je voulais dire. Là. Le réalisateur, c'est Bryce McGuire. Donc, j'imagine que le court-métrage doit se trouver probablement en ligne si on fouille un petit peu, mais c'est une
soit une ça, tendance. Ou il est barré, puis ils veulent pas qu'on le voit. Au générique, ben là, on les voit pas dans le teaser, mais Wyatt Russell puis Kerry Condon, qui sont quand même comme ça, des acteurs de premier plan. Là. De second plan, je sais pas comment dire. Ben, Kerry Condon était nommé pour The Banshees of Inisherin l'an dernier aux Oscars. Wyatt Russell.
C'est pas des vedettes, mais c'est des acteurs solides.
Des acteurs établis.
C'est ça, établi. Ok, le bon.
Fait que voilà.
Découvrir donc ça va être le 5 janvier.
5 janvier.
Ils l'ont repoussé, ils l'ont sorti un peu plus tôt que prévu. Je pense que c'était comme le 19 janvier finalement.
Ils veulent couvrir tout le mois de janvier.
Ben, probablement la dernière fin de semaine de congé du temps des fêtes. Donc, ça fait le tour pour moi pour les bandes annonces.
OK. Attaquons les nouveautés.
Ben oui, moi, je suggère d'aller tout de suite dans le gros ou tu veux aller ailleurs?
Moi, j'aime bien commencer avec le québécois.
Les jours heureux de Chloé Robichaud. Oui.
Son troisième film, elle qui avait commencé avec Sarah préfère la course en 2013, puis Pays en quoi, 2017, 16 à peu près? Quelque chose de même. Puis que ça fait une couple d'années, elle a fait de la télé entre-temps.
Oui.
Ici, elle revient avec Sophie Desmarais, justement, qu'elle avait connue il y a 10 ans. On retrouve également Sylvain Marcel, Nour Belkiria, Maude Guérin, Vincent Leclerc et une autre belle gang de jeunes, dont Catherine Levac. On va suivre Sophie Desmarais, qui est une chef d'orchestre, mais qui cherche à faire sa marque à Montréal, à rentrer dans, je pense que c'est l'Orchestre métropolitain. Elle s'appelle Emma. Elle obéit aussi assez aveuglément à son père, Patrick, joué par Sylvain Marcel, qui est son père et agent d'artiste, surtout probablement dans la musique classique. Fait qu'il y a une espèce de double rôle là-dedans qui va compliquer sa vie, si on veut. Et de la vie de tous, c'est une jeune artiste qui a une technique impeccable. Elle a une excellente connaissance musicale et très professionnelle, mais il manque un petit peu de gut feeling, il manque un peu d'émotion dans sa direction d'orchestre. Est un peu trop beige, finalement. Genre. Techniquement, elle est parfaite, mais émotionnellement, c'est plus faible. Fait que tout ça va la conduire à essayer d'en mettre plus. Non, tu sais, elle sort d'une... comment on appelle ça?
Résidence.
D'une résidence, exactement. Fait que c'est pour ça qu'elle a des évaluations comme ça. Puis là, elle veut commencer à impressionner pour essayer d'avoir un poste à une place de renom. Elle aimerait bien à Montréal parce qu'il y a un poste disponible. Sauf qu'au travers de ça, ben, la relation avec son père va s'intensifier et nous, on va connaître de plus en plus le backstory, qu'est-ce qui s'est passé avant tout ça, d'où est-ce qu'ils viennent pour comprendre où ils en sont. Puis Emma est également dans une nouvelle relation amoureuse compliquée quand même avec Naël, joué par Nour Belkiria, qui est violoncelliste, mais là qui est en instance de divorce. Elle a la garde partagée de son fils, mais c'est nouveau pour elle d'avoir une relation homosexuelle, fait qu'elle n'est pas prête à aller aussi vite que Emma voudrait, ce qui va frustrer Emma. mais qui est aussi un ancrage pour elle émotionnel parce que sa relation avec son père, avec sa mère est plus compliquée. Fait qu'on est vraiment dans cette espèce de tension émotionnelle, si on veut, de cette chef qui cherche à avoir un poste comme ça. Fin du synopsis. Ça a été présenté en première au TIFF cet automne. C'est un film qui a déjà un certain rayonnement à l'international. Rapidement, on le compare beaucoup à Tar, il y a un an à peu près, ouais, avec Cate Blanchett, c'est ça?
Ouais.
Mais il n'en est pas, parce que c'est un peu l'inverse. On avait dans Tar des grandes séquences de dialogue, la manière de filmer était différente, on ne voyait pas tant d'orchestration. Ici, il y a énormément de séquences de musique sur un film de 2 heures, il y en a à peu près 25 minutes, ouais, comme fou, là, de réelle direction d'orchestre, de musique. Parce qu'on nous présente, est-ce qu'elle le dirige trop droit, amener après des pièces plus audacieuses, des pièces plus émotives, puis on le ressent vraiment, cette différence-là, dans le choix des œuvres.
Je veux dire qu'on explore plus le métier de chef d'orchestre au quotidien. Là, ouais.
Puis l'autre grosse nuance, oui, c'est deux chefs homosexuels, mais il y en a une qui est tyrannique, puis ici, c'est plus une qui subit la pression d'une certaine masculinité, d'une certaine toxicité. Fait que c'est pas une copie de l'un de l'autre. On a, comme on dit, on a fait un épisode spécial, on a discuté un peu avec Chloé Robichaud, justement. C'est sûr que tu travailles sur un film depuis plusieurs années, là tu vois qu'il y en a un qui sort, t'es comme, hé, tabarouette, j'ai-tu manqué le bateau, là, je viens de me faire voler un peu mon scoop puis tout, puis en le voyant, c'est comme, bon, c'est inévitable qu'on va le comparer, mais c'est un peu des pommes puis des oranges. Les deux, c'est des fruits, mais après ça, il n'y a plus de point commun, ouais, vraiment. Là,
puis je dirais même, ceux qui ont vu Tar et qui ont peut-être eu certaines réticences, Les Jours Heureux est quand même beaucoup plus accessible, beaucoup plus classique quand même que Tar.
Je suis de mots.
Donc, ben oui, voilà.
voilà, fait que c'est un film, de très grande performance quand même, ouais, de comédien. Sophie Desmarais, très incarnée, c'est un rôle qui est beaucoup intériorisé justement parce qu'on lui reproche de ne pas être assez émotive dans ses trucs, fait que comprend tout ce qu'elle accumule, ce qu'elle garde en dedans, puis qu'elle-même, finalement, a de la misère à exprimer son espèce de sa colère intérieure, ce qui la fâche. Elle croit qu'elle doit être peut-être plus posée que ça pour être professionnelle. Puis Sylvain Marcel, fait que les scènes entre les deux sont très chargées d'émotions, sans être mélodramatique, là, mais... il y a un gros bagage là-dedans. Puis en discutant avec Chloé aussi, c'est comme... Je pense qu'elle sent pas... Tant que ça, charlatan dans le monde de la musique, là, elle écoute d'elle-même beaucoup de musique classique puis tout, puis elle racontait qu'aussi, là, elle est invitée dans plusieurs panels différents pour parler de musique classique. Elle a dit, là, je suis plus une passionnée qu'une professionnelle dans ce niveau-là. Là. Mais c'est ça. Mais pour les acteurs, c'est un grand défi d'incarner un ou une chef d'orchestre parce que tu fais pas juste des simagrées en avant, tu sais. Puis dans leur travail, ils ont été accompagnés, entre autres, de Yannick Nézet-Séguin. Mais ils ont eu... C'est une chorégraphie à apprendre, mais qui c'est quasiment comme une séquence de combat, là. Moi, je voyais ça, tu sais. Puis ils ont travaillé aussi à diriger réellement des orchestres pour voir comment ça fait la différence, à quel point tu mets de l'intensité. Si tu ralentis dans le rythme, ils vont ralentir, ça va se déconnecter, puis tu sais... Fait que c'est fascinant. Puis eux, c'était un stress, là, parce que la performance a dit... Même quand il y a des chants contre chants, là, donc la caméra filme l'orchestre, après la caméra filme le chef d'orchestre, elle dit que ça n'a pas été tourné à part. T'sais, quand on était dans ce lieu-là, il y a des figurants partout pour remplir l'assistance. L'orchestre est là, des 80 musiciens, puis le chef est là. Fait que c'est comme un vrai spectacle, mais toi, t'es comme, moi, je fais juste semblant d'être fait que tu te
mais
sens
que
un
ça
peu...
paraisse vrai.
C'est ça. Fait qu'autant le métier d'acteur, c'est de faire semblant. Elle dit, ouais, je me sentais un petit peu imposteur, là, mais ils m'ont rassuré, puis à un moment donné, j'ai assumé tout ça. T'sais.
Non, on vous invite à écouter justement l'épisode spécial, parce que c'était une conversation très révélatrice, puis c'était très intéressant de voir justement, là, eux, comment ils ont vécu ça comme comédiens, d'apprendre ce métier-là, finalement, après ça, de l'exercer quand même, pour vrai, entre guillemets, on s'entend. Puis quand Sophie démarrait, c'était quand même pratiquement près de 2 ans de préparation.
Oui,
quand
c'est
même,
ça
là, fait que c'était de longue haleine. Et d'ailleurs, tu l'as souligné, elle est juste époustouflante dans le rôle, là, où tout en retenue, tout passe beaucoup par ses yeux aussi. On est souvent en gros plan sur elle lorsqu'elle dirige, puis même en dehors de ça aussi. Vraiment une prestation sans faille. Tous les comédiens sont Mais excellent. Juste, comme tu dis, on aurait pu tomber un peu dans le mélo avec ce genre d'histoire-là, mais pas du tout. Tout est crédible, donc j'ai bien apprécié ça, puis apprécié. Et puis, comme je disais, le film est vraiment très accessible à tout le monde. Là. On est dans une histoire très... Encore, je vais utiliser le mot classique, là, mais tu sais, je veux dire... Ouais.
Ben, c'est des relations familiales. Ouais, là, c'est ça.
On renouvelle rien, mais tout est bien fait.
C'est un angle différent, je trouve. Ouais. Le fait d'être dans la musique classique,
oui,
c'est ça.
L'univers, oui, tout à fait. Et ça, c'est le contexte, intéressant.
Ouais.
Ça, j'ai beaucoup apprécié, justement, d'avoir un peu accès à ce monde-là. Donc, allez-y, c'est vraiment un très bon film.
Au niveau de la mise en scène, de la caméra, je trouve que c'est des belles images, mais c'est tranquille, c'est pas tape à l'œil. En fait, c'est un peu peut-être le constat des films cette semaine. C'est efficace, je dirais, mais justement, c'est pas je crois que Chloé Robichaud est une cinéaste qui met beaucoup d'efforts à diriger ses comédiens. Oui. Des fois, le penchant jeu versus technique. Là. Fait qu'elle est plus de ce côté-là que « Ouais, fais-moi des folies, puis un grand zoom, puis des affaires comme ça. » On est plus dans le standard. Mais ça porte fruit, justement, je trouve, pour un film sur la musique classique comme ça. Ouais. Il y a eu énormément de films sur la musique classique depuis 2 ans, justement. Il y avait Divertimento qui était passé en coup de vent cet été, où c'était justement aussi une étudiante plus jeune dans son parcours qui voulait faire sa place en tant que chef d'orchestre dans un milieu assez masculin. Fait qu'il y a un peu ce côté-là aussi ici qui est touché, veut pas. Puis voilà. Fait que non, moi j'ai bien aimé ce film-là. Je trouve que c'est... Je veux pas dénigrer d'autres films, mais tu sais, fait pour les bonnes raisons, fait avec passion. Il y a une proposition dans cette œuvre-là. C'est pas un film de commande. Je trouve ça vraiment bien. J'espère que les gens vont se donner la peine d'y aller parce qu'il y a eu un gros boom récemment avec Testament, avec d'autres films comme ça. Puis des fois, quand il y a trop de bons films en consécutif, ça cède, mais ça se nuit un peu parce que les gens vont pas nécessairement au cinéma à toutes les 2 semaines. Là. La moyenne, c'est peut-être plus une fois par mois là, pour ceux assez férus de cinéma. Fait que des fois, ça va faire que tu vas manquer le bateau sur un titre à cause de ça.
Mais ça confirme que c'est quand même une excellente année pour le cinéma québécois.
Oui, vraiment, c'est ça. Énormément de films qui s'enlignent ou qu'on prévoit qui dépassent le million de dollars. Oui, il n'y en a pas qui vont faire 6 millions, mais les années où il y a un film qui fait 5-6 millions, il y en a moins qui dépassent le million.
Alors que tout le monde partage la tarte.
C'est ça,
plus,
voilà. En tout cas, c'est plus pronostic. Là. Je ne sais pas si Jour heureux va se rendre à 1 million. C'est le premier week-end qui va nous dire combien il sort. Là. Mais tu sais, Testament, lui, il va le prendre... probablement au bout de la semaine prochaine, j'ai l'impression, si c'est pas même à la sortie de la fin de semaine.
Donc, allons dans un tout autre registre avec Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese.
Ouais, la note américaine que plusieurs aussi disent, c'est quoi ce titre-là? Ça sort donc bien de nulle part. Oui, c'est un peu champ gauche, mais c'était déjà, le film est inspiré d'un roman de David Grann, puis c'était déjà le titre de la traduction du roman, donc je pense qu'on s'est pas posé la question, essayer de le changer le nom rendu au cinéma.
Mais c'est un livre de nom fiction. Fait que c'était plus une enquête sur le phénomène.
C'est avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, donc les deux coqueluches de Scorsese en même temps.
Les deux générations, ces deux acteurs fétiches.
Ouais, c'est-tu la première fois qu'ils sont ensemble?
DiCaprio et Scorsese, c'est leur troisième fois.
Non, DiCaprio et De Niro.
C'est leur troisième fois. Ils avaient joué dans deux films des années 90. Dans This Boy's Life, puis je l'avais noté justement parce que je voulais aller. Marvin's Room.
OK, je ne connais pas ça.
J'ai pas vu Marvin's Room. This Boy's Life, je l'avais vu à l'époque. Il jouait justement le fils, je pense, de Niro.
Mais depuis que DiCaprio est connu comme il l'est, depuis Titanic, ils n'ont pas joué ensemble.
Non, c'est ça, depuis 80. Je pense que c'était 16 ou 17 Marvin's Room dans ces années-là. Ouais.
Fait que voilà. Lily Gladstone aussi. Jesse Plemons, que j'aime beaucoup. Et Brendan Fraser, même un petit caméo, qui est revenu d'entre les morts depuis 2 ans. On est en Oklahoma au début des années 1920. On va suivre Ernest Burkhart, joué par DiCaprio, qui est un vétéran de la Grande Guerre, qui est revenu s'établir dans sa ville natale à Fairfax. Puis après que les Autochtones de la nation Osage forment désormais une élite très nantie parce qu'ils ont découvert sous leur terre plein de gisements de pétrole. Alors qu'on les a reclus là pour dire, un peu style réserve, allez là, c'est de la merde. Puis zut, il y a plein de pétrole. Fait que là, les Blancs s'immiscent là-dedans pour essayer d'aller rechercher l'or noir comme ça. Fait que parmi eux qui cherchent à en profiter, on va découvrir qu'il y a l'oncle d'Ernest, donc joué par De Niro, le puissant William King Hale, qui va encourager la romance naissante entre son neveu puis une Amérindienne qui s'appelle Molly, jouée par Lily Gladstone, dans le but d'éventuellement s'emparer un peu de la fortune de cette famille-là. Puis là, ben, les morts suspects vont commencer à s'abattre sur la communauté, puis éventuellement, le FBI, donc le personnage de Jesse Plemons, va débarquer pour enquêter sur toutes ces morts suspectes là, dans la communauté. Tout ça raconté en 3h30. Mais je pense que c'est pas une surprise. On dirait, j'ai l'impression qu'un film de 2h30, on va dire, ah, c'est un peu long, ça aurait pu durer. Mais moi, rendu à 3h30, je suis juste, ben, tu sais, il est long. Là. Même s'il coupait à 3h10 en enlevant une scène ou deux, ou tu sais, rendu là, c'est plus un facteur. T'sais, comme quand tu vas aller le voir, tu es conscient que ça dure ce temps-là, que tu vas peut-être aller aux toilettes à un moment donné puis manquer 2 minutes. Essaie de te timer avec tes amis, pas que tout le monde aille en même temps.
Je suis allé 2 fois, je dois confesser. Bon.
Puis t'étais tout seul au visionnement, fait que personne n'a pu te raconter ce que t'as manqué. Fait que, comme tu disais, basé sur des faits réels, fait que ça nous raconte vraiment une période sombre de l'histoire américaine qu'on a oubliée, qui rappelle que ben, les Blancs ont une espèce de nature colonialiste. On est cette espèce de moment-là entre le Far West que tu peux tuer facilement n'importe qui sans trop de réprimande ou t'es wanted là, pour 10 000$.
Tu contrôles la justice aussi.
Puis, exact. Puis on s'en va vers l'espèce de capitalisme moderne, là, c'est capitalisme sauvage, mais comme on achète les choses, ça se passe par contrat, on est des bandits à cravate. Fait que t'es un peu à mi-chemin entre les deux. Fait que c'est un film de Scorsese, il y a de la violence. Je peux pas dire qu'il est quand même 13 ans et plus, je peux pas dire qu'il n'a pas du tout, mais il n'y a pas cette espèce de violence très graphique. Là. C'est beaucoup des une balle, t'es mort. Là. Il y a pas l'espèce de torture comme il y avait dans Casino puis dans plusieurs des films de mafia. Mais c'est comme un espèce de. Entre le drame social puis le drame familial, parce qu'on va suivre beaucoup la famille de DiCaprio puis Gladstone, puis lui est séparé avec son oncle, puis un peu comment tout ça se passe au travers, puis d'avoir le contrôle du pouvoir des terres, puis des choses comme ça. Fait que ça dure à peu près 5-7 ans, le film, le temps qu'il y ait des enfants qui se rencontrent, ouais, etc.
Parce que j'avais lu, c'était en 1929 qu'il y a eu le procès. Là.
OK, ben 9 ans, finalement, à peu près. Là. Ben, tu sais, puis c'est même pas 1920 précisément, c'est au début des années 20, fait quoi, c'est à peu près ça, un genre de 7 ans. T'en as pensé quoi, toi, sans spoiler?
Ouais, ben, je dois avouer, je vais être honnête que le 3h20, moi, je l'ai senti un peu, là. Honnêtement, je vais peut-être créer une hérésie parmi les ventes de Scorsese. Je pense qu'il aurait pu resserrer un petit peu le montage. Là.
Mais il y a énormément de films qui durent 3 heures, lui, dans sa filmographie. Mais 3 heures, pas mal, plus ou moins 2 minutes. Là,
mais ceci dit, je comprends son intention où le film est vraiment divisé comme en 2 parties. On a peut-être la première heure, on est très dans l'espèce d'idylle de cette relation-là naissante avec le personnage de DiCaprio et Molly.
Ouais, on comprend le contexte un peu plus.
Ouais, c'est ça. On installe justement tout de ce qui se passe, les relations entre les Blancs, les Osages. On est beaucoup là-dedans. Puis après ça, la deuxième partie va basculer un peu plus où les meurtres vont commencer à s'accentuer et que la justice américaine va commencer à s'y intéresser. Fait que, au-delà de ça, comme je dis, je comprends Martin Scorsese. Là, c'est plus une proposition. Est-ce que vous trouvez ça trop long ou pas? Ça va être à vous de juger. Sur le reste, au niveau technique, rien à redire. C'est un très beau film. La recréation historique, elle est complètement malade. Donc, on prend une grosse partie. D'où est allé le budget de 200 millions? Là, je pense qu'ils ont vraiment recréé, reconstruit village, physiquement le village, la gare de train, des choses comme ça. Les comédiens sont tous très bons. Ben, tu sais, bon, on s'entend avec DiCaprio, De Niro. Ça est exceptionnel, mais ils sont très efficaces. Moi, je pense que j'aurais pris un peu plus de la présence de Jesse Plemons. J'ai mieux aimé cette deuxième partie-là où il commence à avoir une enquête. On essaie de comprendre ce qui se passe.
Deuxième, il arrive quasiment au troisième tiers.
Oui, c'est Plemons, ça. Là, fait que, j'ai bien aimé Lily Gladstone.
Oui, vraiment. Elle a un jeu.
Une présence tranquille.
Ah ouais, il passe énormément d'affaires dans son regard. Là. Il y a comme une espèce de lourdeur du poids de sa famille, de son peuple. Là. C'est un peu cliché à dire, mais c'est dans le film, est un peu la représentante des Premières Nations et tout. Puis, un peu de la situation qu'ils vivent malgré eux. Tu sais, il y a un personnage secondaire qui le dit à un moment donné, il dit, on n'avait pas réalisé que tout cet argent-là venait avec ce poids-là.
Ouais,
là,
tu sais. Ce bagage-là.
Hey, ouais. Ouais, c'est ça, on a du pétrole, on le vend, on fait de l'argent, puis c'est comme tout le monde vient nous agresser pour reprendre le contrôle, puis tout. Tu sais.
J'ai trouvé drôle, peut-être, je ne sais pas si tu l'avais remarqué, mais Évidemment, Leonardo DiCaprio joue avec quelque chose dans la bouche. Là,
ouais,
sa mâchoire,
je sais pas s'il fait
là.
Juste s'avancer la mâchoire
ouais,
tout le temps, un petit jeu physique
je
là-dessus.
Il évoquait beaucoup Marlon Brando du Parrain là, avec sa gueule de bulldog
ah,
là, un
ça.
Peu. Là.
Oui, il pensait à mais... Brad Pitt fait ça des fois
ouais,
dans
c'est
certains
vrai,
rôles. C'était-tu dans Once Upon a Time in Hollywood, justement, qui faisait le cascadeur de DiCaprio?
Même, je pense, dans un plus récent aussi, c'est encore plus prononcé, mais là, j'arrive plus à mettre la... quel film.
Ah non, c'est dans Inglorious Bastard. Buongiorno,
ouais, ouais.
Qui a très le menton avancé.
Mais
là.
Récemment, dans son plus récent film aussi, là, c'était beaucoup plus prononcé.
C'est
mais
quoi son plus récent? Le film de train à grande
c'était
vitesse?
C'était-tu Bullet Train? Ouais. Il y en a-tu sorti un cette année? Qui avait un petit rôle, en tout cas, bref. Mais oui, effectivement, Brad Pitt aussi a cette tendance-là maintenant de... d'imiter, je pense, un peu là,
ouais,
le style
ça.
Brando. Là. Fait que par moment, ça m'agaçait un petit peu, honnêtement. Là, c'est son faux dentier à DiCaprio.
Oui, c'est ça, parce qu'il a les dents un petit peu plus croches. Pas 100% croche, mais tu vois qu'il...
Mais c'est un
certain respect de l'époque. Tu arrives avec tes dents blanches toutes bien alignées de traitement orthodontaire. C'est comme,
je comprends.
C'est pas ça, fait que je suis en accord avec ça.
Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui croient au génie. Le
Médiafilm, le côté 2,
ben
donc remarquable. Ça. Dans 20 ans, pourrait devenir un chef-d'œuvre.
Ouais.
Écoute, on parlait hors enregistrement, on peut en discuter un peu de la filmographie de Scorsese, puis il y en a qui sont déjà, c'est dans le top 5 et tout. Moi, ce que j'aime bien, c'est que, oui, tout le monde joue bien, c'est des acteurs de grand talent qu'il est allé chercher, avec qui il est habitué de travailler aussi. Mais je trouve que c'est davantage un film d'histoire. Tu y vas pour l'histoire, l'espèce de c'est pas sur des générations, mais tu sais, l'avancement à travers le temps, etc., plus que c'est une performance tu sais, larmoyante puis qui va aller te tirailler. Mm-hmm. Fait que je crois que c'est un film qui va se ramasser son lot de nominations. Je ne sais pas combien de prix il va gagner. C'est dur à se prononcer tant qu'on ne sait pas l'ensemble des nominations.
Ouais.
Je pense qu'en scénario adapté, il peut tirer son épingle du jeu. Je crois que Lily Gladstone, comme actrice de soutien, peut
je
aller chercher beaucoup.
Oui.
Mais DiCaprio, en rôle principal, je pense qu'il va avoir d'autres performances plus marquantes dans l'année.
Oui, oui. Et lui en a fait de plus marquantes aussi,
même
s'il était très efficace.
C'est ça. C'est plus que ça mérite une nomination pareille, puis dans meilleur film, puis tout. Puis c'est un film considérable et d'envergure, ne serait-ce que d'avoir... tenu son bout pour que ce soit un film, d'avoir la durée qu'il veut. Il a atteint un point où il y a un tapis rouge devant lui puis on lui donne pratiquement tout, tu sais. Mais c'est ça, je disais, j'encourage le cinéma puis j'ai beaucoup apprécié le film, mais on n'est pas loin d'ajouter, comme on dit, 25 minutes puis que ça devienne une mini-série, un limited series de 4-5 épisodes. Mais Apple TV tient à, et merci à eux, sortir leur film au cinéma, leur faire une vraie vie au cinéma, ce que Netflix ne fait pas.
Tout à fait. C'est tout à leur honneur et c'est quand même un film qui est intéressant à voir, ne serait-ce que pour les paysages
qui
sont fantastiques. Et moi, il y a la bande sonore que j'ai beaucoup aimée aussi.
Oui, c'est qui a fait?
Robertson, qui est malheureusement décédé il y a 2 mois, qui était à la tête d'un band que j'oublie. Là. Fait que c'est un musicien très connu.
Okay.
C'est dans le monde un peu niché de la musique. Là. Peut-être pas de Monsieur, Madame, tout le monde, mais fait que c'est assez rare. Et je pense que c'est pas la première trame sonore qu'il a faite avec Scorsese non plus.
Il y en a souvent, mais très subtil.
Ouais,
là, des tambours, une petite basse qui est comme... Doum, doum,
ouais,
doum,
c'est ça.
Doum,
puis, écoute, même
qui met
un moment donné,
tension.
C'est un
puis...
peu, on dirait, comme synthétisé pop un peu par moment aussi. Là, je trouvais que...
Ouais.
Je trouve que c'est le fun, mais ça te détonne avec
alors,
le temps.
C'est pas juste
temps,
un gros John Williams classique,
non, non,
c'est
on
ça.
On est vraiment t'sais. Ailleurs. Fait que ça, j'ai bien apprécié. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Mais c'est ça. Moi, je crierais pas au génie, là, tu sais, encore. Là, j'ai bien apprécié.
C'est à la hauteur de son talent, ça,
oui,
c'est sûr.
Mais pour moi, c'est
pas,
pas
si
dans ses top 5, là, honnêtement.
Ouais. Mais c'est bon. Peut-être juste
mais
nous autres qui sont trop desséchés.
Peut-être.
Parce que partout, on crie au génie. Fait que tentez votre chance. Puis comme je dis, ben là, à un moment donné, si t'assumes d'aller le voir, ben là, t'arrêtes de chialer que c'est trop long. Là. Tu le sais que ça va être ça, 3h30. C'est pas une surprise rendue dans la salle.
Moi, j'ai quelques fun facts, si tu veux que j'y aille.
Ben oui, vas-y.
Ouais, vas-y. Donc, tu disais, donc, le film est adapté de l'œuvre de David Grant. Donc, pour ceux qui s'intéressent, qui est vraiment une œuvre documentaire. Là, donc, c'est vraiment une enquête. Il a travaillé une dizaine d'années sur ça.
Okay.
Sur ce livre-là, qui était sorti en 2016. Donc, les droits ont tout de suite été achetés parce que, dans le fond, depuis 2017, que Scorsese et DiCaprio étaient rattachés au projet. Même que DiCaprio, à l'origine, devait jouer le rôle de Tom White, l'enquêteur du FBI. En fait, ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est que c'est la première enquête officielle du FBI qui venait d'être formée.
Il y a le petit, as-tu vu le petit clin d'œil? Je sais pas, je te vole de quoi quand il... On le voit dans la bande-annonce, là, mais tu sais, Plemons arrive et dit « Ouais, je t'ai envoyé par J. Edgar Hoover. » Puis lui qui a formé le FBI plus tard. Puis DiCaprio, son personnage, dit « Ah, oh, je sais pas c'est qui, mais il a joué le biopic de Clint Eastwood sur Hoover. » Tu trouvais ça coquin.
Mais en cours de route, finalement, il trouvait le personnage plus intéressant, celui d'Ernest Burka, qui trouvait qu'il avait plus de chair. Et d'ailleurs, ils ont remanié complètement le scénario en 2019, là, où, justement, pour mettre l'accent plus sur le point de vue des communautés des Premières Nations, des Osages et tout ça. Donc, je pense que la première version, c'était peut-être plus l'enquête du FBI et tout ça. Là. Donc, Scorsese a comme fait ce changement-là de cap dans l'adaptation du scénario, ce qui a repoussé aussi un peu le tournage et évidemment la COVID, là, parce que normalement, le tournage devait avoir lieu en 2019-20, dans ce temps-là. DiCaprio, 6e collaboration avec Scorsese. De Niro, une 10e quand même. Ouais. DiCaprio, qui est aussi un des producteurs du film, aurait reçu la coquette somme de 30 millions pour jouer dans le film.
Dans le film, OK.
Quand même. Et puis, ce qui est intéressant, De Niro, c'est qu'il a 80 ans. Et le personnage qui joue, William McKell, avait 45 ans quand même à l'époque.
Ah ouais, OK.
Pratiquement quand
Mais
même le double
DiCaprio, son personnage aussi devrait être plus jeune, parce que DiCaprio a comme 45 ans, justement, à peu près. Là.
En fait, dans la
début
réalité...
quarantaine dans la vraie vie. Là.
Ouais, oui, je pense que il y a mon âge, il doit être plus un 45-46.
C'est ça, mais on comprend que son personnage devrait plus avoir comme 29 ans, peut-être. Ouais. Là, tu sais.
Et dans la vraie vie, donc, le personnage de Molly, joué par Lily Gladstone, elle était plus vieille que le personnage de Burkhart. D'Ernest. Elle était... je pense que c'était 10 ans plus vieille, mais Léo est 12 ans plus vieux que Lily Gladstone.
OK, c'est ça.
Les aléas du casting, ça me faisait bien sourire. Sinon, si vous vous intéressez vraiment au film et au phénomène, il y a déjà eu un film sur cette tragédie-là qui s'appelle Tragedies of the Osage Hills, qui date quand même de 1926.
Ah, okay.
Alors quand même...
Mais là, ça veut dire que c'était frais c'était en tabarouette quand il avait fait ça?
Tout à fait, j'avais jamais entendu ce film-là, mais donc, il y a déjà eu...
Puis en 26, c'est un film muet?
Nécessairement. Je pense en 27 que le son est arrivé avec The Jazz Singer. Fait. Ouais, ça doit être...
Il doit pas durer 3h27.
J'imagine que non. Sinon, pour le pianiste, ça devait être infernal de jouer ça.
C'est ça, il fallait que tu payes plusieurs pianistes. Il y avait un sub au milieu. Puis, je pense que on l'a pas évoqué, puis sans spoiler, l'ouverture du film vers la fin, là, très intéressant, une mise en scène différente. Et moi, j'étais content de voir un de mes idoles, Jack White, qu'on voit très peu au cinéma. Il avait joué un peu dans, pas Brokeback Mountain, mais Retour à Cold Mountain à l'époque. Okay. Genre qu'il faisait un petit personnage secondaire, puis là aussi. Fait que moi, j'ai aimé ça.
Non, il y a de bonnes petites trouvailles visuelles aussi. Là. Certainement, je pense l'ouverture, on est un peu comme... époque du cinéma muet, là, justement. Là, on nous présente
c'est
vieilles bobines d'époque et tout ça. Là, fait que, un petit côté esthétique là, bien fouillé.
Fait que c'est quand même un film qui va faire jaser parce que c'est au bout des lèvres. Tout le monde en parle, ne serait-ce que c'est ça, pour les prix, la durée, le cast, de ces retrouvailles-là dans tout ce monde-là. Fait que...
Et quand je dis aussi le grand retour de Scorsese, ça fait quand même depuis 2016 qu'un de ses films n'avait pas été projeté
au cinéma. Oui, parce que le Irishman avait été que sur plateforme. Puis 2016, c'était quoi?
C'était Silence.
Ah oui.
Sur
avec
les Jésuites.
Liam Neeson.
Andrew Garfield.
Que je n'ai pas vu.
Non plus, qui est comme passé un peu dans l'indifférence.
Je réalise que j'ai... Ben tu sais, c'est parce que c'est ça, j'étais là, il y a quoi 15 films? Puis non, il y en a comme 25, genre... Puis, j'ai vraiment pas tout vu, mais je n'ai quand même vu, mettons, 9 de lui. Il n'y a pas tant de réalisateurs que j'ai vu 9 de leurs films, pas tant de réalisateurs et actrices qui ont 9 films ou plus, mais c'est quand même pas la moitié de ce qu'il a fait.
Alors,
voilà.
Allons dans un tout autre.
Allons dans le thriller, dans le suspense psychologique.
Vision de Yann Gozlan.
Exactement, Gozlan avec Diane Kruger, cette Allemande multilingue, polyglotte. Ouais. Mathieu Kassovitz et Martha Nieto. On va suivre le personnage principal joué par Kruger qui s'appelle Estelle, qui est une pilote d'avion de ligne, là, donc de gros vols, pas commerciaux, mais de passagers et tout. Elle a une discipline de vie, une routine quasi militaire. Elle nage beaucoup, elle court, elle s'entraîne, elle pèse, elle calcule tout ce qu'elle mange. Puis elle essaie de tomber enceinte avec son mari Guillaume, qui est un médecin joué par Kassovitz. Mais sa routine va être chamboulée quand elle va voir réapparaître dans sa vie Anna, qui est une photographe, une artiste avec qui elle a vécu une aventure romantique et passionnée à peu près 20 ans plus tôt. Puis en cachette, elle va entamer une nouvelle liaison avec Anna qui réside dans la villa au bord de mer tout proche d'où eux y habitent. J'ai pas noté c'est où que ça se passe le film, mais c'est comme côtier, paradisiaque, genre Côte d'Azur, quelque chose de même.
C'est ce qu'on devine. Oui.
Et c'est ça, sauf qu'Estelle avait d'abord revu Anna en rêve avant de commencer à la voir en réel. Fait que là, c'est cette espèce de prémonition étrange où elle voyait du sang puis des choses un peu troublantes va commencer à la mélanger entre la réalité puis le rêve. Puis bien évidemment, les choses vont pas aller à s'améliorer dans ce suspense psychologique-là où on essaie de voir c'est-tu l'avenir, c'est-tu le passé, c'est-tu vrai, c'est-tu elle qui est folle. Là, son sommeil va commencer aussi à être affecté par ça, donc son travail éventuellement. Gozlan fait toujours des thrillers, pas mal. Ouais. Ce suspense, c'est comme son 4-5e. Boîte noire était son précédent avec Pierre Niney. Qui, ben là, même s'il est pilote d'avion, c'est pas dans le milieu de l'aviation comme tel, plus que sa vie en dehors de ça. Boîte noire était vraiment là sur un crash d'avion, puis qu'on pensait qu'on avait falsifié les données de la boîte noire. Je pense quand même que Boîte noire est son meilleur, son plus efficace. Ici, on est parce qu'on est beaucoup dans le psychologique plus que dans le réel, un peu, ouais. Si on veut. Fait qu'il y a une espèce de c'est plus dur de connecter, disons, ouais. avec cette enquête.
Dans le songe, dans ouais. le symbolisme. Fait que,
moi, voilà.
Et c'est quand même lent aussi. Comme
c'est ça. C'est très esthétique comme film. C'est un peu plus lent. Il y a, tu sais, Diane Kruger était une super bonne comédienne et je pense qu'il aime la voir et la filmer. Fait qu'on met beaucoup ça à l'écran. C'est un 13 ans plus érotisme aussi. C'est ça, c'est assez sexu. Les scènes, surtout d'homosexualité avec Anna, avec sa maîtresse. Écoutez, il y a pas, tu sais, c'est un suspense, on peut pas trop en parler sans spoiler. Il a ramené aussi des séquences qu'il avait faites dans Boîte noire, beaucoup audio. Elle va avoir un message téléphonique très bizarre, mais qu'elle va écouter, qu'elle va essayer de remettre en scène, qui est plus avec des sons et tout. Fait qu'il y a une immersion audio à ce moment-là. C'est ça. C'est un film qui est bien construit, qui est bien visuel, mais je pense, autant on parlait du running time de Killers of the Flower Moon, je pense que lui, même s'il est à peu près 2h, 2h04, il aurait gagné à être resserré ouais. d'un petit 10 minutes, là, juste pour que ça aille un petit peu plus vite, que le rythme augmente à partir peut-être de la moitié du film ou quoi que ce
ouais,
soit.
Oui, parce que la première heure, c'est quand même long. Avant qu'on embarque réellement, je pense qu'il serait. Ça aurait pu être gagné, donc lâchez pas là, si vous trouvez ça... C'est un peu plus lent, là. À un moment donné, ça embarque un petit peu plus. Comme toi, j'avais préféré, je pense, la boîte noire, que je trouvais plus originale comme histoire, alors que là, on est quand même dans du déjà vu un peu, quand même. Là.
Ben, l'histoire d'adultère,
ouais,
des choses comme ça.
Ça mais bon, Kruger est toujours efficace. Cassavetes, c'est intéressant de le voir aussi dans un rôle un peu différent.
Ouais,
c'est
puis
genre qui...
il y a une espèce de... Ben, c'est... Je pense que tu n'as pas le choix dans ce genre de film-là. C'est que tout le monde est un peu louche.
Ouais,
tout le monde, est, on dirait qu'ils peuvent tilter puis péter une note. Puis elle-même est comme... Tu sais, c'est pas le personnage le plus charismatique. On voit que c'est quelqu'un qui est droit, qui est froid, ouais. qui n'est pas nécessairement créatif d'une folie contagieuse et tout. Fait que c'est ça. C'est un beau film avec des personnages qui n'ont pas beaucoup de relief en tant que tel. Ça. Fait, mais ça fait partie du suspense de l'histoire, tu sais.
Puis je trouve que, ouais, c'est ça, Gozlan est comme un des dignes héritiers d'Hitchcock d'aujourd'hui, par sa thématique un peu comme Hitchcock, qui est beaucoup dans les apparences, les fausses apparences. Mm-hmm. D'ailleurs, Dan Kruger évoque beaucoup les héroïnes d'Hitchcock, blondes. Okay. Donc ça, c'était comme Grace Kelly, Tippi Hedren et tout ça. Alors, c'était comme un des motifs d'Hitchcock quand il choisissait ses comédiennes. On est Oui, comme beaucoup dans la symbolique, je suis allé lire une entrevue avec Gozlan où, pour le film, il voulait vraiment parler de contrôle. D'ailleurs, c'est pas... Parce qu'on se demande aussi quel est le rôle vraiment de professionnel là, du personnage qui est pilote d'avion.
Pilotes,
ouais. Mais tu sais, on est vraiment dans le subtil où il voulait justement des gens dont leur métier, c'est d'être en contrôle. Donc, pilote, évidemment, médecin, chirurgien,
ouais,
médecin pour Kassovitz et qui finalement, qui a une faille derrière tout ça et d'ailleurs une faille dans la maison.
Ouais,
un rôle, tu sais, fait que, ouais,
c'est craque dans le béton. Là.
Fait que, voilà. Fait que, bon.
C'est ça. Mais ce que je trouve, la force d'un film comme ça, c'est que c'est un divertissement, tu sais.
Oui,
c'est
oui.
pas un blockbuster parce que la version américaine serait avec des faces connues puis tout, et etc. Mais c'est que tu vas là, puis tu sais, quand on dit tu te mets le cerveau à off, mais tu le mets pas à off pour genre, bon, il va avoir des coups de pied d'un gosse, puis ça va être drôle, là. C'est vraiment du côté comme. Ça va te sortir de ton quotidien, là, puis tu veux juste être focusé sur cette affaire-là, essayer de résoudre, d'ouvrir les portes avec les clés qu'on te donne jusqu'à temps que tu te fasses surprendre vers la fin et tout. Ouais. Fait que je trouve que c'est un bon divertissement de cinéma en ce sens-là. Puis comme on dit, il y a un traitement audio très intéressant aussi à voir sur grand écran. T'sais.
Puis, petit clin d'œil ici, justement, on parlait de la boîte noire. Donc, le personnage de Kruger s'appelle Estelle Vasseur et celui de Pierre Ninet était Mathieu Vasseur. Donc...
C'est des frères et sœurs.
Est-ce que c'est le début d'un univers partagé?
Oui, c'est ça, comme les. Avec Thierry Lhermitte, là, François Pignon. Là, tout, oui. Mais c'est pas Thierry Lhermitte, comment il s'appelle le cinéaste?
Francis Weber.
Weber, c'est ben ça, oui, qui met des François Pignon partout. Là. Fait que c'est un peu les motets ou les... Sinon, c'est pas toujours les plus idiots, mais les personnages principaux de ces comédies-là, là, le placard puis tous ces trucs-là. Ben voilà pour Vision qui prend l'affiche ce week-end. Dans les autres sorties un peu plus limitées, il y a le Étrange façon de vivre, Strange Way of Life, c'est ça, de Pedro Almodovar, qui est un court-métrage de 30 minutes. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a combiné du côté du distributeur avec son court-métrage de Human Voice, La voix humaine, qu'il avait fait en 2020 avec Tilda Swinton dans celui-là. Je parlais surtout d'Étrange façon de vivre. C'est il l'appelle un western queer, qui dit lui-même Almodovar, fait que c'est qui va être surpris par le retour d'un éleveur de chevaux avec lequel il a vécu une passion torride il y a 25 ans. Un shérif va comprendre que le fait que la visite de son ancien ami/amant cache un autre motif. Et au générique, c'est Ethan Hawke et Pedro Pascal, Ethan Hawke qui joue le dit shérif. Sous une mise en scène que j'ai vraiment apprécié. Tu sais, c'est un court-métrage, fait que c'est un peu comme trois scènes, là, tu sais, bout à bout, qui font une petite parcelle d'histoire où on ramène un peu le passé puis on comprend le présent avec une genre d'ouverture vers le futur. Fait que... En musique, c'est... j'ai oublié de noter, mais Alberto Iglesias, je pense, c'est ça. C'est comme lui qui fait toujours la musique depuis énormément de films. C'est son compatriote. Ça doit être lui qui faisait pour Human Voice aussi, j'ai moins remarqué. Fait que, tu sais, je vais pas spoiler ce qui se passe rapidement, mais c'est pas un genre de Brokeback comme Brokeback Mountain où c'est comme « Ah, c'est un secret que finalement, ils sont homosexuels. » Mais tu sais, c'est ouvert, mais tu comprends qu'il y en a un qui veut vivre ça bien ouvertement, l'autre est un peu plus réfractaire à ça, puis surtout, il se demande pourquoi il revient dans sa vie. Ça le chamboule, mais pourquoi il revient dans sa vie autant plus tard que ça?
Est-ce qu'on est dans un Almodovar plus éclaté? Parce que des fois, il nous habitue quand même.
Ben, comme il y a peu de scènes et tout, au niveau du dialogue, ça se tient debout. Je veux dire, c'est assez normal. C'est pas une métaphore de d'autres affaires. Dans la mise en scène, je pense j'imagine qu'il avait envie de faire un western, mais il avait une idée pour un cours. Fait que...
On est plus dans le drame.
Oui, c'est ça. Ça. Ouais, exact. Non,
parce
c'est
que
pas...
des fois, il te verse dans la comédie noire, dans la satire. Tu sais,
non, c'est ça. On est vraiment dans le drame de type western. Puis même chose, Human Voice, c'est plus une joué par Tilda Swinton. Là, c'est un film de 2020, fait que d'après moi, il était tourné en pandémie. C'est pour ça que c'est en monologue. C'est une femme qui attend le retour de son mari, mais qu'on comprend qu'il est en train de la laisser. Fait que c'est elle, son espèce de deuil en quelques jours qu'elle va faire en lui parlant au téléphone. Mm-hmm. Fait qu'on entend juste sa version à elle, monologue. Puis elle est avec le chien, qui était le chien de son ex-conjoint. Puis, sauf que lui, dans cette mise en scène-là, on est en studio. C'est comme elle est dans sa maison, mais tu vois la caméra, n'hésite pas à sortir. Elle, elle sort de la maison, puis la maison est dans un studio là, monté sur des montants en bois là, de 2x4, puis tu vois que tu es dans le studio en béton, puis tout, fait qu'il y a comme une espèce de mise en abîme là-dedans qui est assez originale dans la mise en scène. Mm-hmm. Fait que... Non, ça fait un programme de... Là, c'est contrairement à l'inverse. C'est un film que... mis ensemble, ça dure 65 minutes. Là, c'est 1h05. Fait que
vous pouvez faire le doublé avec Killer of the Flower
Moon.
Oui,
c'est
ça.
C'est 4h30, ça fit. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se glisse bien dans une journée. T'sais, avant, selon les heures où il est projeté, il y a une couple de cinéma à Montréal, du Parc. Je pense que c'est le cinéma du musée. Il y a le Clap à Québec. Puis il me semble qu'il y en avait deux autres que j'avais vus sur le communiqué de presse. Samedi, là, s'il joue, tu vas de 5, il est fini à 6h30, tu vas au restaurant ou l'inverse, tu finis ta soirée. Ah ben oui, peut-être qu'il joue à 9h30 le soir, mais il va être fini à 10h30. Quoi que ce soit. Fait que ça se glisse bien dans une journée ou cette semaine, peut-être. S'il joue à 4h30, 5h après le bureau, hop, une petite heure pour aller voir deux bons courts-métrages d'Almodovar.
Avant la partie du Canadien samedi soir.
Voilà, c'est ça. Ah, ça te met dans le beat pour le hockey. Fait que ben, beaucoup de thématiques homosexuelles cette semaine au cinéma. Voilà. Moi, ça me choque pas. Ça me dérange pas partout. Je trouve il y a une affaire, mais ça, c'est juste mes mœurs. Là. On a déjà parlé de la sexualité au cinéma. Pas les pratiques d'être hétérosexuel ou homosexuel, mais quand on met, souvent, c'est des femmes nues qu'on va mettre, puis il y a un peu ça dans la vision. Puis des fois, je me dis toujours, est-ce que tu avais besoin d'en monter autant ou c'est toi qui as quand même envie de voir ça? Puis c'est ça mon malaise avec. J'aime mieux les trucs suggérés comme dans Simple comme Sylvain qui a finalement vraiment le montré. Mais c'est peut-être juste moi. Peut-être qu'il y en a qui vont exactement pour ça. C'est peut-être une affaire de justement, ça va vendre une coupe de plus de billets si on voit les seins de la comédienne. Écoute, c'est tout. J'ai pas noté d'autres choses cette semaine. Il y avait, je pense, quand même un documentaire et autres, mais on n'y a pas eu accès. Et, voilà, c'est les films majeurs de la semaine. La semaine prochaine. Deux sorties. C'est le week-end d'Halloween. On va être le 27 octobre.
Retour
Five
de l'horreur,
Nights at Freddy's. Cinq nuits chez Freddy. L'adaptation d'un jeu vidéo où des mascottes possédées tuent les gens qui font le ménage dans cette place-là. Et surtout, pour les fans de cinéma peut-être plus réfléchis, Anatomie d'une chute, qui est aussi un suspense, mais qui a gagné la Palme d'Or. Il est déjà coté 2 sur Mediafilm, entre autres. Les critiques sont dithyrambiques sur ce film. Il a été présenté au FNC également. Fait que bien hâte de voir, là, qui est justement un genre de procès sur de quelqu'un qui est accusé du meurtre de son mari, mais qu'elle se clame innocente. Puis je pense que dans le montage aussi, on va être très créatif. On parle d'une œuvre de grande qualité dans le cas de ce suspense-là. Et c'est pas mal les deux sorties majeures la semaine prochaine. Pour nous contacter, comme d'habitude, écrivez-nous balado au singulier à commercial monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations et si c'est pas déjà fait, je vais mettre l'épisode spécial de Les Jours Heureux. Je vais le mettre en ligne dans les prochains jours très rapidement.
Ben excellent, sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Et si jamais dans votre cinéma local, les sièges sont pas super confortables, peut-être amener un petit oreiller pour votre fessier.